196 des 1635 langues que compte l'Inde sont en instance de disparition, selon les estimations de l'UNESCO, et ce sont celles qui ne sont plus transmises d'une génération à l'autre, dont les seuls locuteurs sont des personnes âgées. Ce sont pour la plupart des langues parlées dans des vallées difficiles d'accès de la ceinture himalayenne du Nord-Est, représentant la grande famille tibéto-birmane. C'est aussi le cas de toute la famille linguistique des grands andamanais, les langues des îles Andaman, qui comptent parmi les plus anciennes du monde. Ne comptant plus qu'une dizaine de locuteurs très âgés, elles sont vouées à une disparition prochaine. La langue bo, qui faisait partie de cette famille, s'est éteinte en février de l'an dernier avec le décès de Boaz Senior. Depuis la mort de sa mère il y a plus de 30 ans, elle ne parlait plus dans sa langue qu'aux oiseaux. Cette rencontre sur trois des plus grandes langues de l'Inde est dédiée à la mémoire de Boaz Senior, à celle de son monde et de sa langue, dont elle nous a laissé cette brève trace sonore. Nous passons à l'autre extrême du spectre des langues indiennes. La Constitution en compte 22. Et parmi ces 22 langues, je passe sur les détails de comment elles s'organisent dans les États, etc. Mais nos traductrices pourront peut-être en développer sur le sujet. Sont représentés ici le hindi, de loin numériquement la plus importante, en la personne d'Annie Monto, qui est professeure à l'INALCO, professeure de hindi, et chercheuse en linguistique indienne. La personne de France Bhattacharya, qui a été très longtemps professeur de bengali aux langues orientales, à l'INALCO également, et qui est traductrice du bengali, qui l'est restée et qui est toujours extrêmement active dans ses recherches sur la question. Et en la personne d'Elisabeth Setupati, qui, elle, représente, à elle toute seule, je l'aiderai un tout petit peu parce que je suis aussi dans la famille dravidienne, mais je ne compte pas parce que je suis modératrice, qui représente à elle toute seule donc la famille dravidienne, qui est celle des, pour faire très schématique, des quatre grandes langues du triangle sud de l'Inde. Elisabeth est également professeure à l'INALCO. Chacune d'elles a publié des ouvrages pédagogiques sur les langues qu'elles enseignent et des traductions pour Annie et pour France. Je voudrais donc commencer par leur demander, à chacune d'entre elles, de nous présenter leur langue. Surtout, dans un premier temps, comment elle s'insère dans cet espace linguistique indien qui est d'une diversité très grande, dont on a vu quand même qu'elle s'effrite au fur et à mesure, en commençant bien sûr par les plus petites langues, celles auxquelles on accorde finalement aucune importance, en tout cas officiellement. Boaz Senior a été reconnu, on a cette photo, grâce au fait que dans les derniers temps de sa vie, elle parlait une langue qui était encore du beau, mais mitigé de hindi, pour pouvoir parler avec une anthropologue qui a recueilli ses derniers témoignages. Donc, Annie, si vous voulez bien, si tu veux bien, on commence par le hindi, et tu nous dis la place qu'elle occupe dans le paysage linguistique indien, et aussi un peu comment on envisage son évolution.
Tu tiens à ce que le hindi commence.
Comment ? Je tiens pas à ce que le hindi commence. On peut demander à Elisabeth de commencer avec le dravidien. Oui, 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 c'est une très bonne idée.
Le petit d'abord. Le petit, je ne sais pas. Le petit, pas si petit que ça, mais petit numériquement parlant, on va dire. Le tamoul est une langue, donc, comme vient de dire Dominique, dravidienne, donc appartient à cette famille de langues représentées aujourd'hui surtout dans le sud. Donc, il est parlé principalement au Tamil Nadu et dans le territoire de Pondichéry. Donc, Pondichéry et Karaikal pour les comptoirs français dont chacun a appris la liste il y a quelques, peut-être dizaines d'années, mais c'est aussi une langue importante à Sri Lanka et en particulier en ce qui concerne la littérature contemporaine, dont je parlerai un petit peu, puisque en fait je la pratique relativement plus que la littérature sud-indienne, mais pour des raisons que je vous détaillerai un petit peu. La particularité du tamoul dans le cadre des autres langues, c'est son histoire littéraire très longue, de plus de 2000 ans. Les tamouls la croissent encore d'au moins un ou deux millénaires, mais disons pour rester raisonnable, on peut dire que ses premières contributions datent des alentours que deux siècles à peu près avant l'ère chrétienne, avec une littérature classique aujourd'hui reconnue internationalement par les spécialistes, pas connue par la plupart, entre autres des Français, mais ni reconnue forcément à ce degré par tous les Indiens. Mais c'est tout de même une des fiertés de la langue et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tout à l'heure je ferai un certain nombre de restrictions sur la littérature, l'intérêt de la littérature contemporaine en tamoul par rapport aux autres langues indiennes. Non pas qu'elle ait à rougir, mais elle a au-dessus d'elle le poids de cette littérature ancienne qui lui donne, disons, quelques complexes.
Voilà France, le bengali, la deuxième en numériquement et pas seulement en Inde, mais aussi...
Ça marche tout seul. D'accord. Bon, le bengali, c'est une langue qui est parlée par 250 millions de locuteurs, dont 150 millions à peu près au Bangladesh, et le reste dans l'état indien du Bengale occidental. Et c'est une langue indo-européenne, contrairement au tamoul et aux langues dravidiennes, indo-européenne, mais d'une branche qui est la branche indo-iranienne et qui est donc proche, qui évidemment, si vous voulez, a pris son origine, je dirais, dans le sanskrit et qui ensuite est passé par différents états de langue jusqu'à arriver au bengali tel qu'on le connaît par, évidemment, non seulement des étapes linguistiques, des étapes littéraires. Et voilà, et c'est une langue qui a une sorte de aura de langue de culture. Tout au moins jusqu'à ces dernières années, elle était une langue dans laquelle on trouvait beaucoup d'écrivains intéressants, importants et qui ont même un prix Nobel de littérature, le poète Tagore, et il n'y en a pas d'autres jusqu'à aujourd'hui en Inde.
Annie, le hindi.
Alors, voilà pourquoi je tenais à ce que le hindi passe après les autres, non pas qu'il rougisse de son impérialisme, c'est la langue la plus parlée, puisque c'est la seconde ou première langue officielle, en tout cas une des deux langues officielles de l'Union indienne. Sur les chiffres, personne ne s'accorde, c'est entre 400, 450 millions, des fois 380 millions. L'encyclopédie Incarta de Khomri dit 380. En outre, donc il y a déjà ça, que c'est une langue qui n'est pas aimée en Inde. De notre côté, vous avez vu tout à l'heure qu'il a été question de fierté des langues. Les bengalophones sont fiers de parler bengali. Les tamoulophones, je suppose aussi, Elisabeth a prononcé le mot de fierté. C'est pas le cas.
Les malayalis, j'imagine qu'il est impossible d'apprendre le malayalam.
Alors, c'est pour ça que la situation du hindi est très, très compliquée. On pourrait ouvrir un débat entier dessus. En plus, elle est polémique, mais d'une façon extrêmement brûlante, à cause en particulier de rapports très conflictuels avec l'ourdou, qui ne remontent pas que à la partition, mais enfin que la partition Pakistan ourdoufone avec l'ourdou langue nationale, alors qu'en Inde, le hindi est une langue seulement officielle, mais celle de l'Union malgré tout. Depuis, la difficulté de ces rapports entre frères et ennemis, comme ils le disent eux-mêmes, les locuteurs de ces deux langues, c'est absolument pas apaisé. Et donc ça fait une partie des problèmes. L'autre, c'est que le hindi, en tant que langue officielle, on dit le hindi, il y a les sociolinguistes des nombres 300 langues dans le hindi. Et pour vous dire qu'il s'agit de langues et pas de variantes dialectales, certaines de celles qu'on trouve dans les états de l'Est, comme au Bihar, n'ont pas de genre grammatical, pas de structure ergative, c'est-à-dire que le verbe s'accorde toujours avec son
son sujet un petit peu à la française, comme en bengali, comme en tamoul. À l'ouest, c'est pas le cas. Donc, c'est des différences typologiquement très, très fortes. On peut vraiment parler de langues différentes. Alors, le hindi, généralement, soit on parle de l'orbe culturel, et là, on est plutôt dans une culture qui remonte au 15e siècle, qui fait l'unanimité, parce qu'elle est antérieure à cette scission hindi-ourdou, avec des poètes mystiques comme Kabir, qui sont traduits par Madame Vaudeville, vous les trouverez sur le présentoir. Et plus souvent aussi, on parle de hindi comme la langue qu'on lit dans les journaux, par exemple, ou dans les chaînes de télévision où on parle bien, c'est-à-dire pas le hinglish. Et cette langue-là, c'est la langue non pas encouragée par la Constitution indienne de 1950, qui souhaitait ouvrir la langue aux apports dialectaux des autres grandes langues régionales, de l'ourdou en particulier, et pas seulement du sanskrit, mais c'est la langue que les commissions terminologiques et ces divers instituts de fabrique ont chargé exclusivement de sanskrit, avec une syntaxe anglaise, mais ça c'est un autre problème. Cette langue-là, elle n'est pas aimée, et d'où le problème, elle n'est pas aimée des autres communautés culturelles, qui sont des cultures régionales avec d'autres langues dont ils sont fiers, mais elle n'est pas non plus aimée des écrivains hindis, et à tel point que je vois des blogs, c'est pas du tout isolé, depuis plusieurs années, qui disent, mais c'est pas possible, cette histoire de langue nationale, encouragée par l'ambassade, parce qu'on publie de plus en plus en hindi, il n'y a pas de problème. L'histoire de Beau, ce n'est pas du tout sur le point d'arriver. C'est une culture linguistique endangered, mais ce n'est pas une langue endangered au sens cette langue-là. Par contre, entre l'encouragement que je pourrais dire cosmétique, je ne suis pas tout à fait la seule à dire ça, qui est d'ordre officiel à cette langue un petit peu de bois, qui est le hindi sanskritisé, et puis l'adhésion populaire des écrivains en particulier. Il y a un monde sur les blogs en question, j'ai souvent les gens locuteurs de hindi disent le hindi, notre langue nationale, c'est pour ça notre langue officielle, c'est pour ça qu'on l'aura jamais, c'est l'anglais et que l'anglais, parce que le hindi est coincé dans les problèmes où il est. Et si seulement on en prenait une autre, prenons par exemple, je te jure c'est pas exprès pour toi, le malayalam. Alors là, moi je défendrai ma langue officielle, dixit locuteur de hindi. Donc vous voyez, c'est tellement compliqué, tellement difficile à expliquer. Et en plus, le milieu académique est extrêmement sclérosé pour des raisons d'histoire culturelle et surtout politique dans les universités, si bien que ce n'est pas attractif. Et donc que tous les gens de culture hindi envoient leurs enfants, en général, perdre leur culture hindi, ou en tout cas créer un gap, un fossé énorme entre la culture anglaise qu'ils apprennent à l'école et la culture hindi. On en a honte, en gros.
Annie, à une époque encore proche, la fin des années 80, j'étais au Kerala, et je lisais les journaux en anglais, qui relataient des problèmes. Les fonctionnaires du pays, les fonctionnaires fédéraux qui étaient répartis dans tout le pays, avaient été chargés dans une tentative pour les familiariser avec le hindi, essayer de les faire entrer dans l'acceptation du hindi, de signer leur nom en hindi sur les formulaires. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même suffisamment intrusif pour qu'au Tamil Nadu, il y ait des suicides par le feu de fonctionnaires qui ont refusé. C'est quand même une opposition extraordinaire. Tu peux nous en dire un petit mot, Elisabeth ?
Alors, la situation, effectivement, le hindi, c'est une chose. Je vais vous donner juste une anecdote. Quand j'étais dans les premiers séjours en Inde, c'est-à-dire à la fin des années 70, j'ai fait un long séjour au Tamil Nadu et je suis allée ensuite en Inde du Nord faire un petit tour. Et je suis revenue habillée comme... disons, aujourd'hui, la plupart des Occidentaux se promènent, c'est-à-dire avec un punjabi, bref, pantalon large et tunique, au lieu du sari que je portais d'habitude. Et la réaction immédiate des gens a été « Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Remets vite ton sari, ça c'est un vêtement du Nord. On ne veut pas de ça ici. » Si vous allez aujourd'hui au Tamil Nadu, vous verrez que non seulement les jeunes filles ont adopté cette tenue, mais aussi énormément de femmes mariées. Ça s'est fait extrêmement vite. Ça veut dire qu'effectivement, un tabou est tombé. Mais le tabou, enfin le tabou, l'opposition donc, de cette période à laquelle Dominique fait allusion, était très forte et elle était liée, c'était non seulement le hindi, par peur d'imposition d'une langue du Nord, du hindi sur le tamoul, mais c'était aussi anti-sanskrit, qui en tamoul est appelé la langue du Nord, bien que le sanskrit ait aussi eu des poètes dans le sud de l'Inde. Mais l'une des façons en tamoul de dire le sanskrit, c'est de dire Vadamoji, c'est-à-dire la langue du Nord. On peut dire aussi Samaskridam, mais bon. Donc cette association du sanskrit et des brahmanes, qui sont considérés comme étant venus du nord de l'Inde, qui sont généralement une population un petit peu plus claire que l'ensemble des tamouls, plus le hindi, tout ça fait une espèce de, bon, si on explique les choses un peu simplement, boule de neige et a fait, bon, a conduit à ce genre de situation. Mais je pourrais vous dire autre chose en sens inverse, mais c'est pas du tout le même point de vue. J'ai rencontré des fonctionnaires nord-indiens, hindiphones, à Tanjore, donc au cœur du pays tamoul, qui essayaient d'apprendre le tamoul. Et pour eux, c'était un casse-tête absolument épouvantable. C'est pour faire mesurer la distance en fait, qu'il y a entre une langue du Nord et une langue du Sud, mais surtout entre le tamoul et les autres, parce que le tamoul a une phonologie assez particulière qui lui a fait laisser tomber, par exemple, les aspirés, qui fait que la même lettre rend le son K et GA. Donc il faut savoir quand on prononce l'un, quand on prononce l'autre. Les tamouls eux-mêmes n'en sont pas conscients en général, ça peut vous l'expliquer. Ce système est sous-jacent dans les autres langues du Sud, mais l'adoption du sanskrit est beaucoup plus importante dans les autres langues qu'en tamoul.
Et tu sais, le malayalam, par contre, qui est aussi une langue dravidienne, donc de la frontière ouest, on va dire, du Tamil Nadu, n'est pas du tout dans cet esprit vis-à-vis des langues de l'hindi. À la même époque, on disait aux enfants qu'il fallait apprendre le hindi. Le hindi était obligatoire à l'école, on va dire ça comme ça. Et je ne sais pas comment ça se passait au Tamil Nadu, mais au Kerala, ça se passait très très doucement. C'est-à-dire que les enfants revenaient avec des zéros, ils ne travaillaient pas en hindi, et on faisait comme si on n'avait rien vu. C'était une espèce d'opposition latente, pas méchante du tout. Par contre, le hindi est venu très fort et a complètement balayé cette opposition-là par la télévision.
Oui.
Les programmes de télévision.
Le cinéma en particulier.
Et d'autre part, le malayalam est moins opposé, si tu veux, enfin, pas la même pugnacité contre le hindi, pour, à mon avis, deux raisons. D'une part, parce qu'il n'est pas aussi ancien, il ne peut pas se réclamer d'une littérature aussi ancienne que le sangam. Et d'autre part, parce qu'il a récupéré, lui, tout le vocabulaire sanskrit, et d'une façon extrêmement précise. C'est-à-dire qu'ils sont presque dans l'état. Les mots sont pratiquement tous dans l'état où le sanskrit les a donnés. Donc il est assez fier finalement du sanskrit. Alors c'est une sorte d'ambiguïté qu'il y a dans cette langue-là.
Le tamoul est à part, c'est certain. Tout en étant en fait à part à certaines périodes, mais à d'autres périodes, il a fonctionné exactement comme les autres langues. On a un bilinguisme tamoul-sanskrit qui existe. Et donc c'est un petit peu par ignorance que certains pense qu'il n'y a pas, par exemple, de sanskrit dans le plus vieux tamoul. Déjà, là, il y en avait. Mais, par contre, cette ancienne couche de la langue permet aujourd'hui d'avoir un endroit où puiser des termes pour éventuellement remplacer le sanskrit par un mot d'origine dravidienne. Mais en même temps, ça a des conséquences pour les néologismes. C'est beaucoup plus difficile de créer des dérivés de ces mots-là, par exemple, que du sanskrit, ce qui freine beaucoup le développement de la langue d'un autre côté. Mais tout ça, ce sont des problèmes un petit peu peut-être complexes à évoquer ici, aujourd'hui. L'opposition au hindi, aujourd'hui, est tombée. D'accord. À la même époque où les enfants malayalis apprenaient le hindi, c'était les enfants de brahmanes au pays tamoul qui fréquentaient assidûment les hindi prachar sabha et apprenaient le hindi en dehors de l'école. Donc d'où aussi cette association brahman-hindi.
Via leur statut social.
Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Mm-hmm. L'anglais d'abord, le hindi ensuite.
France, le bengali vis-à-vis du hindi, quelle est sa position ?
Le bengali n'a pas de réaction très violente à l'égard du hindi, mais il n'a non plus aucun intérêt pour le hindi, je dirais honnêtement. C'est-à-dire qu'il considère que le hindi, c'est une langue, elle sert à l'administration et elle a cet avantage d'avoir un cinéma qui intéresse ce qu'on pourrait appeler le peuple indien en général. Et donc, grâce à Bollywood, le hindi s'est répandu parmi les classes sociales, depuis le haut jusqu'au bas, surtout le bas, je dirais. Donc, voilà. En même temps, il faut dire qu'en Inde, c'est assez triste d'ailleurs, c'est que Chaque région est très fière de sa littérature et ne s'intéresse pratiquement pas à la littérature du voisin. C'est oui, très, très difficile. L'Académie des lettres de l'Inde a un grand programme, je pense qu'elle l'a toujours, je ne suis plus très au fait,
sur
des traductions d'une langue indienne à une autre. Et c'est très louable, mais je ne pense pas que le résultat soit extrêmement brillant. Les gens restent dans leur atmosphère linguistique. Et voilà. Et je pense que le hindi souffre du fait d'avoir été refait, si je puis dire, en tant que langue. Ça, Annie le sait beaucoup mieux que moi, mais c'est une langue qui a été, d'une certaine façon, fabriquée au 19e siècle. Le bengali aussi a été repensé au 19e siècle. Mais il n'y avait pas tant de différence. Il y avait simplement une langue parlée et une langue écrite. Tandis que pour le hindi, il y avait des quantités de dialectes, de variétés, je crois, du hindi. Et avec tout ça, on a fait une langue qui s'est imposée et qui s'est imposée nationalement. Et donc, ça a créé une impression que, évidemment, le Rajasthani est une langue merveilleuse, Mirabai, le Braj est une langue merveilleuse dans laquelle il y a beaucoup d'écrivains merveilleux, mais le hindi, il y en a, mais des écrivains merveilleux, certes, mais enfin, ça n'est pas vraiment passé dans le domaine général au Bengale. Alors, ne parlons pas du Bangladesh, qui est évidemment un pays indépendant et totalement différent. Mais le bengali, je ne dirais pas que le bengali du Bangladesh et celui du Bengale indien sont différents. Non.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas, malgré le...
Mais il y a des dialectes beaucoup plus importants au Bangladesh qu'il n'y en a au Bengale occidental.
Vous pensez que les 40 ans qui séparent maintenant l'indépendance du Bangladesh, enfin du Pakistan oriental, n'ont pas joué sur la séparation?
Non, parce que chez les intellectuels, non. Je pense qu'on parle là de langue, mais en fait, il faut parler d'un public lettré qui s'intéresse à la littérature dans sa langue. Ce n'est pas tout le monde.
Oui, oui.
Et donc, au Bangladesh, les intellectuels, les écrivains écrivent un bengali qui est celui, je dirais, le même qu'ailleurs, qu'à Calcutta ou ailleurs. Mais ça n'est pas ce que parlent forcément les gens.
Oui, bien sûr. Maintenant, je voudrais vous demander, à la suite de cette... À la suite de ceci, je voudrais vous demandez pour mettre en valeur et bien faire comprendre de quoi il s'agit dans ces langues. Qu'est-ce qui, selon vous, fait leur spécificité et les rend, j'allais dire, irremplaçables? Si ce seraient des trésors qui disparaîtraient, si ces langues disparaîtraient. Est-ce qu'elles ont des singularités, une à une, par famille ou... Et lesquelles?
Je pense que toutes les langues sont irremplaçables.
Mais oui, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je vous questionne.
Mais je pense que les littératures dans chacune de ces trois...
Là, je parle de la langue, purement la langue. Hein, je veux dire, la façon dont la langue...
La structure de la langue, il faut parler langue. Linguistique.
Du point de vue linguistique, oui.
Bon, mais...
Je ne sais pas, France, pour vous donner un exemple, je dirais ce que j'ai dit du fait que le vocabulaire sanskrit soit inclus dans le Malayalam, ça fait partie, à mon avis, des singularités qui la rendent extrêmement riche, extrêmement intéressante. Et puis, par exemple, une structure que j'aime énormément, qui sont les verbes composés. On prend deux verbes, souvent un verbe de perception comme voir, kandu, et puis un verbe de mouvement ou de comme pilik yoga, saisir, et ça devient et ça prend un sens. Et ça, c'est, si vous voulez, ce sont des façons d'aborder la langue, d'aborder le sens, que je trouve extrêmement riche. Bon, est-ce qu'il y a des singularités qui ne sont pas forcément dans la sémantique, mais ailleurs?
Et le bengali ont ce genre de verbe absolument. Ils l'utilisent.
C'est pan-indien, ça.
C'est pan-indien.
C'est pan-indien.
Dans la mesure où il y a un milliard et plus, on peut considérer que bon, ça va rester cette richesse.
Oui, non, mais peu importe, quel que soit ce que vous choisissez.
Par contre, je pense que le dravidia doit différer, Elisabeth nous dira, sur le plan du rapport avec à l'arabe et au persan. Un bengali comme hindi, France nous dira pour le bengali, ça c'est une richesse extrêmement précieuse. Non pas du hindi officiel, hein, pour revenir à ce débat très compliqué de tout à l'heure, mais de la langue d'une culture vivante qui est encore écrite par certains, la langue des écrivains. Des grands écrivains, c'est pour une énorme partie d'entre eux, certes on peut trouver des exceptions, mais pour une énorme partie d'entre eux, c'est la richesse du vocabulaire arabe, du vocabulaire persan, bien sûr aussi du vocabulaire sanskrit. Mais ça, c'est-à-dire si on finit d'épurer le hindi, d'arriver bon, à la langue officielle qui est encouragée par beaucoup de poids par toute la machine administrative et politique, bon, ben ça c'est fini.
Mais par exemple, Annie, les auteurs que tu traduis, par exemple, les deux.
Moi je traduis des auteurs, hein, je pense qu'on est toutes dans ce cas. Oui. Et donc c'est difficile de dire la spécificité d'une littérature. Quelqu'un comme Veit, dont certains livres sont sur la table, en bilingue théâtre, qui n'est pas traduit par moi d'ailleurs, il y a une pièce sur ce problème de la culture hindi et de ça. Ça s'appelle La fin sous le feu. Et chez lui, il pourrait écrire en ourdou. Hein. Il ne l'a pas fait, contrairement à le soi-disant père de la littérature hindi qui a commencé par être un écrivain de l'ourdou, Premchand, mais il aurait pu. Quand il est écrit en ourdou, il n'est pas traduit. Quoi. C'est le même vocabulaire, parce que certaines de ses œuvres sont imprimées en ourdou et lues au Pakistan. Nirmal Verma, ce n'est pas du tout le cas. Et de toute façon, c'est également un hindi qui n'est pas sanskritisé. C'est un degré, enfin une langue non pas pauvre, hein, comme celle de Racine, mais qui est minimale sur beaucoup de plans. Al-Kasaraoghi, il y a du Marwari, c'est une... Marwari, c'est-à-dire Rajasthani, de la communauté économiquement puissante de Calcutta. Donc c'est encore un autre hindi. Bon, et chacun, je pense que chaque écrivain, si on le choisit, nous traducteurs, c'est parce qu'il a un style, et que ce style, il est l'expression d'une culture spécifique, régionale certainement, mais aussi personnelle. On peut pas... Joyce, c'est pas l'Irlande, c'est aussi Joyce sui generis. Et ben, c'est pareil pour nous. Donc on va pouvoir trouver quelques généralités, mais je pense que le fond de la richesse que nous lui trouvons, et pour quelle raison on l'a choisi, parce que généralement, notre problème qu'on abordera peut-être, c'est qu'on choisit toujours, parce que les éditeurs en veulent pas. Donc, ça nous donne une grande liberté. Il n'y a aucun intérêt pour la littérature non anglaise.
On anticipe.
Et donc, nous proposons.
On anticipe là, sur ce dont on va
choisir. C'est le seul bon côté.
Moi, j'ai la tête dure, je vais revenir à la langue. Et je vais te prendre par un autre bout. Je vais dire pourquoi tu as choisi d'étudier le hindi.
Ah, moi, je ne l'ai pas choisi. J'étais sur place.
Le hindi qui t'a choisi.
Non, j'étais dans un pays où on parlait hindi. Et bon, bah, c'est vrai que j'aurais pu ne pas continuer. Et à cause de ça, je pense, comme langue indo-aryenne, c'est tellement stupéfiant de voir l'intégration de la culture qu'on appelle ourdou musulmane. Et puis, je trouve qu'il y a des écrivains soufflants.
Et quand l'indépendance de l'Inde est arrivée, qu'on a commencé à découper les États selon des bases plus ou moins linguistiques, qui ne marchent pas toujours, bien sûr, il y a des États qui en parlent d'eux, etc., c'est pas le problème. Quel hindi était... Le hindi tel que tu le décris là, le hindi moderne dont on ne veut pas, qu'on n'aime pas, c'est celui-là qui était déjà proposé?
Il y avait beaucoup de choses. Comme a dit France, il y a un processus de refabrication, tu vois, invention de la langue, enfin, dans la polémique, on emploie beaucoup ce mot, invention de la langue, antérieure à l'indépendance. Si on prend les écrivains qui ont écrit dans l'Inde coloniale, c'est-à-dire avant 50, on trouve vraiment de tout. Mmh. Et on en trouve aussi qui écrivent en hindi sanskritisé. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver un écrivain jeune qui écrive un hindi riche, c'est-à-dire riche de toutes ces strates culturelles qui comportent les dialectes. Il n'y a pas que l'ourdou, il y a aussi le panjabi, les dialectes orientaux.
ça, c'est le rural aussi, la disparition de la ruralité chez les écrivains et le fait aussi qu'énormément de familles, de la bourgeoisie, de la classe moyenne, choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles dont la langue d'enseignement est l'anglais et qui ont une connaissance de leur langue maternelle, qu'elle soit hindi ou autre, très très faible. Ils ne lisent pas, ils font des devoirs de temps en temps dans la langue maternelle, elle est enseignée, mais enfin, l'intérêt est mis, l'importance est mise sur l'anglais. Et donc voilà, et finalement, moi je commence à être inquiète de ce point de vue-là. Pour un milieu littéraire dans chacune de nos langues, il faut qu'il y ait un milieu littéraire qui soit suffisamment cultivé pour écrire et ne pas écrire. Je ne sais pas, tout à l'heure j'étais à la séance d'avant et on voyait, j'ai posé une question un peu insidieuse, mais les écrivains qui écrivent en anglais se sentent des individus. Ils n'appartiennent à aucun mouvement littéraire. Ils ne se raccrochent à rien, qu'il soit bien sûr une langue indienne, une histoire de la littérature indienne, quelle qu'elle soit, mais non plus à un mouvement littéraire anglais ou anglophone. Parce qu'en Inde...
Mais pourquoi serait-ce un problème, hein? Pourquoi serait-ce un problème?
Ben, c'est un problème parce que l'écriture, c'est pas seulement de raconter une histoire, de ce dont parlaient ces deux auteurs, c'est aussi une façon d'écrire. Et c'est aussi un style. Et ça se fait par rapport à d'autres écritures. Enfin, peut-être je me trompe, mais en tous les cas, c'est mon point de vue.
Oui, non, et je ne crois pas que vous trouviez.
Si on semble être ça, mais... une sorte de figure solitaire qui écrit sa petite histoire dans une langue anglaise qui est celle de tout le monde, finalement.
Mais ils ont quand même des thèmes qui les rattachent à l'Inde. Ils ont leur passé indien, des thèmes les rattachent à l'Inde. Enfin, je veux dire, ils sont pas du tout, ce sont pas du tout des électrons libres comme ça.
Mais qui... ils le sont littérairement. Ils sont rattachés à l'Inde, bien sûr. Oui. Mais littérairement, je sais pas, nous, en France, nous avions une autre idée de ce que c'est qu'un écrivain. Un écrivain, ça écrit non seulement une histoire, mais ça une façon d'écrire, ça a un style, oui. Et ça appartient aussi à un mouvement, à une tendance.
C'est là sans doute où effectivement
il
y a un désaccord.
Bon, peut-être que ça n'a aucune importance. Moi, je suis maintenant arrivée à un point où je me dis bon.
Non, mais je veux dire, c'est très classique, c'est tout à votre honneur.
Je m'inquiète quand même pour les langues indiennes, dans la mesure où toutes les classes qui veulent accéder à une certaine modernité et à un certain niveau social se désintéressent, à mon sens, beaucoup trop de leur langue.
Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'il ne vous semble pas, par contre, que les langues indiennes autochtones, on va dire, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le Malayalam pêche par ce défaut. Qu'il s'écrit en malayalam, les gens écrivent en malayalam quand ils ne sortent pas dans le monde. Et quand ils sortent dans le monde, ils n'écrivent plus en malayalam. C'est-à-dire que si on n'écrit pas le monde dans sa langue, est-ce que cette langue ne diminue pas jusqu'à ce...
Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Bon, je vais pas prendre l'exemple de mes écrivains. Non, un est beaucoup sorti dans le monde.
Je pense à
Anantamurti, qui est quelqu'un qui écrit en Canada, une langue dravidienne aussi, qui, comme France soulignait ce danger, là, lui, il disait, ben moi, même mes enfants peuvent pas lire ce que je fais, ce que j'écris.
Et oui,
c'est quelqu'un qui a été dans le monde. Il a été prof
d'anglais. Ah, mais c'est pas ce que je veux dire.
Ah, c'est pas ce que tu.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'écrivent pas une langue qui soit adapté à ce monde extérieur. Ils n'enrichissent pas leur... Parce qu'il me semble, moi, mon point de vue, si tu veux, c'est qu'une langue, pour rester en piste, on va dire, d'une certaine manière, c'est qu'à partir du moment où on sort dans le monde, les sujets qu'on va aborder, je pense à un malayali qui a écrit sur Hitchcock, par exemple, c'est une des grandes exceptions qu'il ait écrit en malayalam, je veux dire. N'importe quel autre écrivain, ce serait... lancé dans l'anglais et aurait écrit sur Hitchcock.
Ben, moi, je pense que toute l'œuvre de Anantamurti, elle est d'une...
Elle est,
c'est général, quoi. C'est des sujets qui disent le monde. Ah oui.
Ils disent le monde, mais
moi, je l'ai lu qu'en traduction.
Oui, moi aussi. Mais si tu veux, ils disent le monde, mais en le resymbolisant à travers l'Inde. Donc, si tu veux... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très, très rares, les écrivains.
World culture, c'est ça qui manque.
Oui. Enfin, quand ils abordent la world culture, je leur demande pas d'aborder la world culture, hein, de, ouais. Mais quand ils abordent la world culture, c'est en anglais. Alors que pourquoi pas partir dans le monde avec sa propre langue pour l'enrichir et la rendre d'une certaine manière.
Moi, je trouve qu'on n'a pas assez entendu le tamoul, là. J'aimerais
justement, à cet égard, je pense que tout à l'heure, je faisais allusion au tamoul de Sri Lanka et au tamoul de l'Inde. En fait, la situation des deux langues. Bon, c'est une même langue, mais avec des variantes quand même assez grandes. Les références ne sont pas les mêmes. Il y a plus ou moins d'intercompréhension. Disons qu'un tamoul bien instruit à Sri Lanka comprend le tamoul indien. L'inverse n'est pas forcément vrai, surtout quand il s'agit de tamoul parlé, par manque de fréquentation, on va dire. Mais si on regarde la littérature contemporaine dans les deux pays, où l'état de la langue, on voit de façon très évidente que quand la langue est victime d'une pression ou d'un risque de disparition, puisque vous êtes tous au courant de problèmes graves qui concernent la communauté tamoule de Sri Lanka, ça entraîne ou ça provoque par ricochet une prise de conscience de la cherté de la langue améliore très nettement la qualité des productions littéraires, même si on peut dire que la littérature de propagande occupe une partie de la scène littéraire, mais et par ailleurs en raison d'une diaspora qui maintenant se retrouve dans à peu près tous les pays du monde, le tamoul est mis en contact avec différentes cultures et réinjecté dans le tamoul par le biais d'écrivains tamouls qui vivent soit au Canada, soit en Europe, soit ailleurs, en Inde. Et ça donne justement cette ouverture à laquelle Dominique fait allusion et qui, pour moi, me redonne beaucoup d'espoir, alors que j'étais à peu près dans le même état d'esprit que France il y a 20 ans. Je me disais, mais est-ce que je vais finir ma carrière? Pourtant, j'en ai plus... Au maximum, j'en ai encore pour 10 ans, au grand maximum, on voyait encore le tamoul vivant. Parce qu'à force de dire ah, le tamoul ancien, c'est beau, c'est etc., etc., et parler en anglais toute la journée, on arrive à ne plus avoir grand-chose d'intéressant à lire. C'est un peu méchant, il y a beaucoup d'auteurs intéressants, mais la scène littéraire tamoul est un peu compliquée. Là, on ne va pas tellement peut-être s'éterniser là-dessus. Mais j'ai pris conscience de cet atout extraordinaire que représente, par exemple, un écrivain comme Muthulingam, qui est au Canada, et qui parle... Enfin, qui écrit sur le monde, effectivement, qui a une vision, à la fois qui a des contacts avec des écrivains américains, nord-américains ou indiens aussi, mais il s'exprime en tamoul. Et donc, il réinsuffle dans le tamoul des choses qui ne sont pas tamoul. Et en même temps, en traduction, ce qu'il écrit apporterait, puisqu'il n'est pas encore vraiment traduit, un regard tamoul sur le monde. Et ça, c'est très précieux, c'est ce dont on a besoin, c'est ça la spécificité des langues, je dirais un regard indien, d'accord, un regard Sri Lankais, d'accord, mais un regard simplement tamoul, parce que ça, il ne se prend pas la posture tamoul de Sri Lanka, mais un regard tamoul dans toutes ses nouvelles ou dans tous ses écrits, vous avez une référence au tamoul, mais dans un contexte totalement universel, quelque part, et c'est une évolution intéressante. Maintenant, est-ce que de nombreux écrivains vont... suivre ses traces, c'est pas sûr, parce qu'il appartient à une génération qui a été formée complètement en tamoul, et ça aussi en Inde, c'est là que le bât blesse aussi, en dehors de certaines communautés qui ont un niveau de langue, comme disait France, et ce sont des gens âgés en général, un très bon niveau de langue, les jeunes d'aujourd'hui, des classes qui sont suffisamment riches pour se payer des livres, pour avoir des livres chez eux, pour accorder du prix à la lecture en langue indienne. Ces gens-là font de l'anglais, ils font leurs études en anglais et gardent le tamoul ou les autres langues pour les rites, pour les relations familiales, et ça c'est assez dramatique.
Moi j'ai rencontré au début où j'allais au Kerala un jeune homme très éduqué, qui avait dans une bonne famille, etc. Et moi j'étais en train de peiner sur mes premières aksharas, mes premières lettres malayali, etc. Et il me regardait avec des yeux ronds en disant « Tu lis le malayalam ?» Je dis « Non, j'apprends à lire le malayalam. » Et je lui dis, mais toi, de toute façon, je ne sais pas quelle réflexion je lui fais, mais d'un air de dire, bon, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être même je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est cette lettre-là? Il dit, mais moi, je ne sais pas lire le malayalam. Et il ne savait même pas lire des affiches dans la rue. Il est malayali, il allait dans une école, et ça, c'est dans les années 80, donc c'était vraiment, il y a déjà longtemps. Et maintenant, ce phénomène s'est complètement multiplié, et... Tous les gens éduqués essayent d'aller dans les... Éduqués et suffisamment riches essayent d'envoyer leurs enfants dans les écoles English Medium, où on apprend les matières en anglais. Parce qu'effectivement, c'est un espoir de job plus grand. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais toutes économiques. Toutes économiques. Donc c'est un problème. Mais puisqu'on était dans les, quand même dans les espoirs, restons-y. France, est-ce qu'il y a quand même quelques jeunes talents bengalis que vous avez repérés?
Il y en a beaucoup, mais personnellement, je m'intéresse plutôt à la littérature, disons, ancienne du Bengale, plus qu'à la contemporaine actuelle, pour mille raisons, et parce que c'est la littérature bengali a commencé bien plus tard que la littérature tamoule. Elle a commencé, on pense, entre le 10e et le 11e siècle par des textes, des chants bouddhiques du grand véhicule. Mais elle a eu une période extraordinairement riche entre le 15e et le 18e, et après, la période du 19e a été extraordinaire, avec des intellectuels, avec des écrivains de tout premier plan. Et je dois avouer que je suis, disons, d'humeur classique, et puis aussi que je pense que parce que j'ai été formée en France, il faut bien le dire, donc il y a une histoire pour moi de la littérature, et pour comprendre ce qui s'écrit aujourd'hui et l'apprécier vraiment, il est bon de connaître ce qui a été écrit dans le passé et suivre une évolution intellectuelle, stylistique et à tout point de vue. Donc c'est pour ça. Alors je ne suis pas la meilleure personne pour vous donner les noms des écrivains qui ont aujourd'hui 40 ans au Bengale. Mais si vous voulez de ceux qui sont morts au siècle précédent, alors là, je peux vous le dire.
Mais France, vous avez vraiment des excuses, parce que c'est quand même l'État qui est, enfin, un État où il y a eu des écrivains immenses dans les siècles dont vous parlez.
Oui,
c'est là où on a aussi écrit le premier roman.
Oui, enfin les romans, oui, c'est-à-dire grâce à... Si je puis dire, grâce, c'est un mot qui soulèvera des objections. Mais enfin, à cause de l'arrivée des Anglais à Calcutta et leur installation et leur ouverture d'établissements d'enseignement supérieur, eh bien, il s'est formé très vite une génération de Bengalis qui était à même de lire la littérature anglaise et européenne, mais surtout anglaise, il faut bien le dire, et de découvrir les genres littéraires, dont le roman. Et comme l'a dit Manil Suri tout à l'heure, les Indiens adorent raconter des histoires. Le roman était le genre dans lequel on pouvait raconter des histoires. Et aussi la poésie. Et quelques années auparavant, il y avait à peu près 100 revues poétiques à Calcutta qui sortaient chaque mois. Alors, qui les lisait, c'était ceux qui les avaient écrits essentiellement, mais aussi ceux qui écrivaient les autres, les 99 autres revues, en quelque sorte. Donc, il y avait une ébullition littéraire très, très grande. Et maintenant, je ne sais pas. Je vous dis, je confesse que je ne sais pas.
Est-ce que vous avez noté une différence à partir du moment où les Britanniques ont changé de capitale, en quelque sorte, et sont allés à Delhi au début du XXe siècle? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, Calcutta a eu... on a noté un changement dans la production littéraire ou dans l'enthousiasme littéraire?
Oui, certes. Et maintenant, je le dis souvent avec beaucoup de regret, Calcutta est devenue une ville... de province, je dirais, alors en Inde, alors qu'avant c'était une métropole en Inde, et c'était probablement, enfin on le disait, je ne sais pas, certainement Madras, enfin bref, toutes les autres villes pourraient le dire sans doute, mais Calcutta avait une réputation de métropole intellectuelle qui était établie, je dirais. Est-ce que tu es d'accord,
Annie, à partir de... Oui, excusez-moi. À partir justement du changement de capitale et de l'apparition du pouvoir, du centre du pouvoir britannique à Delhi, il s'est produit des changements dans le... Il y a eu une évolution dans la production littéraire des...
La production littéraire en hindi, oui, oui. Elle est plus récente. Hein. Bon, c'est vrai que le premier roman, il date du 19e siècle, mais... En gros, c'est les années 10, les années 20, le 20e siècle, disons.
Oui, oui. Ouais. Mais avant, rien de particulièrement notable.
Ben si, mais c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça ne s'appelle pas Hindi, ça va s'appeler Bihari, Braj,
Et ouais. Ça, par rapport à la présence anglaise, il y a eu quelque chose qui s'est passé ou ces langues-là
ah bah évidemment, sont... évidemment, mais ça s'est passé à Calcutta, c'est quelque chose. Ça, c'est
non, je te parle à partir de 1911 et enfin, je veux dire, après que les Anglais aient déménagé.
Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est difficile à attribuer au changement de capitale.
C'est difficile.
Évidemment que la colonisation... disons, la pénétration des idées, en particulier de l'utilitarisme, de la philosophie colportée par l'enseignement des Britanniques, il n'y a pas été pour rien. Mais dans la sphère indiphone, en tout cas, la littérature russe a énormément compté. Elle oui. était plus accessible en anglais. Par la suite, hein, elle a été directement consultée en russe, mais c'est très fort, oui. vraiment, dans la... ce qu'on appelle les progressistes, quoi.
C'était, c'était une source d'inspiration.
C'est les réalistes sociaux, oui, c'est, je pense que c'est indéniable. Je ne sais pas quel rapport ça a, je vous avoue, avec le déplacement de la capitale britannique.
En tout cas, pour revenir donc à nos auteurs, puisque maintenant on va parler de traduction quand même, quel choix vous a guidé, qu'est-ce qui a guidé votre choix quand vous avez décidé ? Qu'est-ce qui a guidé votre choix d'auteur ? Quand vous avez décidé de les traduire
Les choix de mes auteurs.
Oui.
Eh bien, c'était... au départ, je ne connaissais pas, donc c'était leur réputation. J'ai commencé à traduire. À peine savais-je le bengali que j'ai commencé à traduire. Et au fond, traduire a été pour moi une façon d'apprendre le bengali. Bien sûr, je suis veuve d'un poète bengali, et donc toute ma vie, j'ai passé, enfin jusqu'à ce qu'il malheureusement décède, mais j'ai passé avec des bengalis, un bengali, de la littérature bengali. Donc j'ai traduit, dès 1969, Gallimard a publié un premier roman que j'ai traduit, de Bibhuti Bhushan Banerjee, et qui a été filmé par Satyajit Ray,
dans
le film La Complainte, voilà. Pater Panchali. Et donc, ça m'a touchée, voilà, et j'ai été touchée par d'autres écrivains, et je n'ai jamais traduit à la commande. D'ailleurs, pourquoi me commanderait-on quoi que ce soit?
Personne ne nous a jamais rien commandé.
Bon, ça arrive, pas. Ça arrive, mais pas à moi. Et
pas
donc,
moi non
voilà.
Et, hein, ça arrive en Inde.
En Inde régulièrement.
Oui,
éventuellement dans les langues occidentales d'ailleurs.
D'accord.
La Saïti Academy fait ça.
Assez, oui,
ce sont des commandes, malheureusement.
Mais pour nous, qu'un éditeur français demande une traduction d'une langue indienne, ça il faut vraiment aller les trouver et leur dire, voilà, j'ai un roman, il est formidable, s'il vous plaît, veuillez bien le regarder si ça vous intéresse. Et voilà. Et on publie quand même. Il ne faut pas croire qu'on ne publie
bien
pas.
Sûr,
on publie.
Et Elisabeth, il y a des textes que tu aurais envie de traduire?
Alors, envie de traduire beaucoup de choses. J'ai des projets en cours, mais en fait, il me semble de plus en plus que traduire de la littérature tamoule contemporaine suppose d'abord de mettre en place la connaissance du milieu. Et ça, c'est en faisant des cours que je me suis rendu compte à quel point la littérature était peu explicite, c'est normal, c'est de la littérature, et ne se comprend que dans un contexte déjà connu. C'est très, je dirais pas fastidieux, mais c'est assez difficile et long de traduire d'une langue indienne en français. Et finalement, on se dit, si le lecteur lambda lit ça, bon, comme il lit du japonais, comme il lit... enfin, en matière de distraction, si vous voulez, à la limite, ça vaut pas le coup. Je suis un petit peu brutale. Mais par contre, si il peut le replacer dans un contexte soit de connaissance de la région, soit d'affinité avec certains traits culturels, mais il faudrait déjà qu'il les connaisse. Là, la traduction a peut-être plus... Mais c'est peut-être partie de ma propre démarche. Je me suis mise à lire la littérature tamoule contemporaine parce que j'enseignais et qu'il fallait que j'arrive à trouver écrit noir sur blanc des formes de tamoule parlé. C'est ça, on n'a pas parlé des difficultés de langue. Peut-être je devance un petit peu des questions qui devaient venir. Le tamoul est une langue qui ne s'écrit pas du tout comme elle se parle. Enfin, il y a un très gros écart entre l'écrit et le parlé. Et elle est aussi très dialectale à l'oral. C'est-à-dire que non seulement la langue parlée s'écarte beaucoup de l'écrit, mais en plus, elle est très souvent dialectalisé, c'est-à-dire que une personne qui parle dit tout de suite de quel milieu social elle est, de quelle région, plus ou moins, en gros. Et les écrivains, depuis les origines, mélangent. Bon, dans le récit, au départ, utiliser la langue écrite et dans les dialogues, la langue parlée. Et puis après, vous avez tout un tas de jeux d'utilisation de dialectes qui, en eux-mêmes, situent les personnages et qui évitent aux auteurs de trop se lancer dans des descriptions qui seraient utiles pour comprendre le contexte à un étranger et qui ne peuvent absolument pas passer en traduction. Vous avez juste un verbe, par exemple. Bon, Varingala, est-ce que vous venez? Ça, c'est un tamou standard, d'accord. Varela, tout de suite, on sait que c'est un brahmane qui parle. Mais en français, c'est « est-ce que vous venez ?» Je ne peux pas dire « est-ce que vous venez ?» ou « est-ce que vous venez ?» pour montrer que c'est un autre... Une autre bon, c'est juste une petite chose. Mais ça, à longueur, et je pense que c'est partagé par bon, la plupart des langues, mais c'est d'autant plus aigu en tamoul que ce processus s'est complexifié. Et aujourd'hui, par exemple, on a des écrivains qui n'écrivent qu'en langue parlée. Là, alors, en français, écrire... en langue parlée, ou alors carrément qu'en dialecte, ça donne...
D'autant plus qu'il ne faut pas donner une couleur locale française.
Oui, c'est pas possible, on ne peut pas écrire en picard, ou ça pose des problèmes. Si on enlève tout ça, on enlève énormément de choses, et du coup, tout ce qui passe à travers ces textes-là est difficile à rendre, et finalement, on en arrive à se dire, soit il faudrait énormément de notes, les éditeurs n'aiment pas ça, parce que le lecteur normal n'a pas envie non plus de lire des kilomètres de notes, soit il faudrait simplement que le milieu soit mieux connu, et je suis désolée, mais en France, l'Inde peut-être fait l'objet de nombreux voyages, les Français sont les premiers, je crois, en nombre à se rendre en Inde en tant que touristes, mais l'Inde n'est pas tellement portée officiellement par... par les pouvoirs publics, ou etc. Donc l'Inde est largement oubliée des médias, quelque part, même si on en parle de plus en plus. Et donc il y a tout un... Et l'Inde du Sud est encore moins connue, je dirais, que l'Inde du Nord. Oui. On sait ce que c'est, à la rigueur, que des chapatis, mais vous savez ce que c'est qu'un dosa, ou une dosa, ou des idli. On sait ce que c'est qu'un doti, mais on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un veshti, etc., etc. Bon, c'est des petits détails, c'est de la vie quotidienne. On ne sait pas forcément non plus... que, par exemple, le système dravidien de parenté fait qu'un oncle maternel peut épouser sa nièce, ou qu'on se marie de façon privilégiée entre cousins germains. On le sait tellement peu que des Tamouls ici ont des problèmes à se marier quand ils veulent respecter leur mode de vie traditionnel et doivent contourner la loi pour arriver quand même à faire valider leur mariage. Bon, ce sont des choses qu'il faut peut-être mettre en place avant de traduire
les
textes.
Les écueils en traduction, ils sont permanents, et celui dont tu parles, c'est sans doute un des principaux. Mais est-ce que, enfin, bon, ce qui fait qu'on traduit, c'est que finalement, on se dit qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'imparfait que rien du tout.
C'est vrai.
Tout en lui donnant en essayant tamoul, d'aller vers l'idéal, oui. Bien sûr.
Alors, mais... le problème du tamoul par rapport aux autres langues, je dirais, c'est qu'il est en retard. Il est en retard pour la littérature contemporaine. C'est-à-dire que tout à l'heure, je faisais allusion à cette littérature classique qui pèse comme une espèce d'ombre, mais c'est dû au fait que la littérature ancienne a été redécouverte à la fin du XIXe siècle, alors qu'elle avait été largement occultée par les textes religieux qui, eux aussi, qui sont des textes dévotionnels, qui sont la première contribution indienne à ce type de littérature. Donc il y a eu deux grosses contributions du tamoul, cette littérature qu'on appelle classique maintenant, et ensuite la littérature de dévotion qui est à peu près située, qui commence au début à fin 6e, début 7e siècle. Et donc ces deux types de littérature sont tels que finalement les tamouls ont déjà fort affaire à s'occuper de cette littérature-là et se sont relativement désintéressés de leur littérature moderne, relativement. Et tous les mouvements littéraires qu'on retrouve facilement en hindi, en bengali, etc., en tamoul, on a beaucoup plus de mal à les trouver. On a des écrivains de la ruralité, on a des écrivains progressistes, mais par exemple, le mouvement progressiste, on le retrouve beaucoup plus à Sri Lanka, chez les écrivains marxistes, qui ont été des écrivains des classes populaires ou même très très modestes avant la lettre. Si on parle tout à l'heure peut-être de la littérature dalit, c'est-à-dire des castes opprimées, en Sri Lanka, elle existe déjà dans les années 60, alors qu'en tamoul, il faut attendre, tamoul de l'Inde, je veux dire, les années 80, même 90, et elle n'est pas encore extrêmement développée, elle est plus de l'ordre du documentaire. Et donc voilà la raison pour laquelle le tamoul, en plus, je dirais, les conditions économiques font qu'aujourd'hui, tout est réuni pour que le tamoul moderne progresse, alors que dans les autres langues, il est déjà dépassé par l'anglais. La classe moyenne n'est pas encore complètement anglicisée. Elle commence à avoir un peu d'argent pour acheter des livres et pour lire. Et donc, on assiste à une explosion des publications, réédition des auteurs qu'on ne trouvait pas avant, etc. Et donc, il y a de l'espoir pour le tamoul. Contrairement à effectivement ce qui était le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et grâce au tamoul de Sri Lanka aussi, il y a beaucoup plus de possibilités de voir des choses traduites, sans doute par des gens de deuxième génération qui sont bilingues. Et ça, c'est un besoin, puisqu'il y a très très peu de personnes capables. En France, si vous cherchez les traducteurs du tamoul au français, vous en trouvez 4, 5 maximum. Donc comment voulez-vous rendre... Et dont certains ne sont pas des traducteurs à temps complet. D'ailleurs, aucun. Aucun. Bon, moi, je suis enseignante à temps complet, si je peux dire. Josiane Racine a traduit de 2 ou 3 livres, mais dont un est plus de un documentaire que vraiment de la littérature. Hein? Virama, c'est plus... Ça revient justement, ça rejoint ce que je veux dire. C'est-à-dire que Virama apporte le contexte. Et sans contexte, c'est très difficile. On a des histoires qui sont intéressantes, mais traduit en français, c'est plat. Ou alors il faudrait revenir à la langue de la Bible, aux paraboles, pour arriver à rendre ce genre de langue. Mais aujourd'hui, en français, on est tellement loin de tout ça. C'est très, très compliqué. Enfin bon, ça, ce sont mes états d'âme à moi. J'espère que beaucoup de jeunes d'origine tamoule relèveront le défi en France et ailleurs.
Oui. Et justement, à propos des nouvelles productions, on va dire, j'ai noté, en tout cas, dans les traductions anglaises des langues indiennes, un énorme progrès, une énorme progression de la littérature dalit, et notamment à travers des expériences personnelles de vie. Il y a eu du bengali, il y a une femme qui s'appelle Baby Alder qui a vécu chez le neveu de Premchand, je crois, et qui est un grand écrivain hindi, il l'a encouragée à écrire parce qu'elle avait un goût pour la lecture et pour l'écriture. Il l'a encouragée à écrire son expérience, sa vie. Donc cette femme, qui était donc domestique chez lui, a écrit sa vie. Ça a été traduit en hindi par Zuban, enfin par des gens des éditions Zuban. Et ensuite, Urvashi Bhutalia des éditions Zuban l'a traduite en anglais et elle a fini en français, d'ailleurs, chez Piquier. Mais bon, ça n'est qu'un exemple. Il y a eu cette femme. Il y a Selma en tamoul. Pareil, c'est une vie de femme avec ses difficultés traduite en anglais.
C'est
traduite en français
des textes
aussi,
que je traduirais volontiers, parce qu'elle a ça de particulier, qu'elle retrace une saga dans une famille musulmane sud-indienne, et c'est effectivement un type d'islam dont on est complètement ignorant en France, par exemple. On a un certain nombre de personnes qui sont d'origine sud-asiatique et musulmans en France, mais c'est un islam dont on parle strictement jamais.
Oui, ouais, absolument. C'est l'occultation totale.
Et des gens qui n'ont jamais parlé d'eux non plus. Ce serait intéressant de donner une autre vision de... Mmh. Bon, mais il est déjà traduit en anglais. On peut se poser la question, les éditeurs aiment bien des romans déjà traduits en anglais, c'est une espèce de garantie, mais en même temps...
Ben, ils aiment bien parce qu'ils ils y comprennent quelque chose.
Oui, mais en même temps, pour nous, je dirais, si le livre est disponible en anglais, ça relativise aussi un petit peu l'intérêt de le traduire en français, je dirais, dans la mesure où...
Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a aussi un malayali, Narayan, un type qui s'appelle Narayan, qui a écrit pour, alors, pas directement, mais la vie d'une femme d'une tribu complètement dévalorisée, etc. Enfin, il y a toutes les difficultés des gens des castes de bas statut ou des sous-castes, enfin, bon, telles qu'elles sont plus ou moins définies en Inde, sont en ce moment, si tu veux, dans une progression. Et je pense que, là, c'est 3 exemples, mais je pense qu'il y en a au moins une quinzaine.
En bengali, on a eu Mahashetha Devi, qui a été traduite 2 livres en français, et qui, justement, s'est fait le défenseur des communautés qui ont été maltraitées, que ce soit les tribaux, que ce soit les gens de basse caste, etc. Et en même temps, c'est un écrivain, ce n'est pas seulement un état des lieux, si on
c'est
fait ou... Non, c'est quand
pas
même
seulement
une
un document,
écriture.
Ce sont des
et c'est très intéressant de voir cela. Donc maintenant, elle arrive à avoir, je crois, dans les 90 ans, donc sa production est déjà bien largement derrière elle. Mais voilà ce qu'on peut dire. En même temps, il y a eu au Bengale, vers dans les années déjà, je dirais, après l'indépendance, 50, un grand mouvement justement vers les ruraux, vers les milieux qui n'avaient jamais été décrits dans la littérature. Et donc ça, c'est évidemment sous l'influence du marxisme qui était très fort à l'époque. Et maintenant, c'est passé, je dirais. Oui. On n'en est plus là. L'histoire avance, finalement.
Et... Au Kerala aussi, où il y a eu des mouvements marxistes très forts, notamment ce qui s'est passé à Budapest a créé une espèce de zone dépressive énorme qui a eu pour conséquence la création de romans désespérés et parfois très beaux. Mais effectivement, c'est aussi en perte de vitesse, cette forme de littérature. Donc Annie, du côté du hindi, quelle que soit sa saveur.
Les Dalits.
Oui, par exemple.
Les Dalits, je ne pense pas que ce soit une littérature encore très très riche. Je pense par contre que c'est un phénomène de mode tel qu'évidemment il y a une promotion d'écrivains dalits. Il y a Valmiki, enfin il y en a quelques-uns qui sont de vrais écrivains.
Et qui racontent leur expérience.
C'est toujours des récits de vie, pratiquement toujours, oui. Je voudrais revenir sur Baby Alder. Moi, je l'ai lu en hindi quand on en a parlé, juste avant qu'elle soit traduite en français. Ça m'est tombé des mains. Ensuite, je l'ai passé à un collègue pour qu'il lise l'original en bengali. Il a eu le même sentiment. Et franchement, je pense que dans cette littérature dite dalit, malgré le succès des cultural studies, des gender studies et tout ça, il faut distinguer les gens qui ont vraiment une nécessité pour écrire. Hein. La qualité littéraire, c'est encore autre chose. C'est compliqué. On va forcément sous-emprunter des critères à la panthéonisation. Bon, France a parlé de ça, notre culture nous a formaté, même si on a beaucoup de lectures de littérature étrangère, on a un formatage. À part ça, il y a le panthéon indien, il y a World Culture, et au reste, c'est la subjectivité du lecteur. Hein. Bon, pour te répondre directement à ta question, moi, c'est plutôt ça que j'aurais primé, mais j'avoue, j'ai vraiment été choquée du battage fait autour de cette personne à qui j'ai parlé, qui par ailleurs tenait pas particulièrement à écrire, n'avait pas grand-chose à faire, était très emmerdée des questions compliquées qu'on lui posait, parce qu'elle lisait pas en réalité. Et c'est pas son truc. Et ça la met dans sa famille dans une position délicate. Enfin, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui savent ça. Hein. C'est vraiment des trucs qu'il ne faut pas dire sur des tribunes. Mais quand même, quand on voit la même année des écrivains de qualité venus dans l'indifférence complète, dont l'œuvre n'a jamais été médiatisée, qui n'ont pas eu la moindre petite paginette dans Elle ou dans Le Monde, parce que ces auteurs-là, quand ils sont médiatisés, que ce soit pour une raison de prise dans un mouvement littéraire tendance, ou bien pour des intérêts, parce qu'il y a bien entendu ça aussi, la promotion, c'est comme promouvoir une nouvelle marque de voiture. Donc, quand on n'est pas là-dedans, c'est extrêmement difficile. Et j'ai trouvé terriblement injuste la qualité des gens qui étaient là et qui se sont quasi jamais exprimés. Jamais exprimé, parce que s'exprimer en petit comité, là, comme on est tous là, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas sa page dans Elle, dans Match, un petit truc à la télé, c'est comme si on ne va pas vendre, on ne connaît pas ces gens. On a de grands écrivains, ils sont dans les librairies, là, tu m'arrêtes parce que
Mais la librairie, oui, je t'arrête. Je t'arrête, Annie, parce que la librairie, je veux dire, là, on parle effectivement de gens qui devraient avoir une visibilité qui n'en ont pas, on est bien d'accord. Mais si tu savais à quel point c'est vrai, y compris pour les auteurs français qui disparaissent complètement sous les vins de la vitrine du libraire parce que c'est la rentrée et qu'il faut faire grâce à Gallimard.
Je suis d'accord, mais tu peux dire Bergugno à ton libraire et il va t'en sortir. Hein, même
oui,
s'il doit aller dans
absolument.
La... Tu lui dis Gitanjali Shri, c'est qui
ça ? Il va te le commander.
Ah bah, mais non, mais c'est-à-dire que il faut... des Bergugno, t'en as d'autres. Je sais pas, c'est normal, hein, on est en France, c'est normal qu'il y ait davantage de présentoirs pour des écrivains français. Mais l'absence absolue des écrivains indiens écrivant autre chose que l'anglais est quand même phénoménale. Il faut que l'acheteur vienne avec sa liste, le titre, le nom de l'auteur, parce que jamais il va les voir.
Non, mais ça, c'est juste, c'est complètement juste.
Je trouve que ce qui nous manque terriblement à nous qui traduisons des langues indiennes, ce sont des critiques. On n'a pas de gens qui osent faire un compte-rendu d'un livre écrit par un
écrivain. Mais ces critiques-là, ils ne se produisent pas sous des feux de la rampe suffisants pour que ça ait un impact. C'est pas oui, qu'il n'y a pas des critiques.
Enfin, c'est pas que... toi, tu as une autre expérience. Moi, je sais que...
Moi, j'ai toujours des expériences très consternantes. Là, tu cherches les bouquins traduits du Hindi, que ce soit par Madame Balbia ou par moi, ou par d'autres. Ils sont tout aussi absents que ceux traduits par Gros du Tamoul.
Peut-être oui, non, aussi par toi.
C'est non, mais c'est tous exactement c'est pareil. Exact. Oui. Que l'écrivain soit d'une grande qualité. Moi, je voudrais revenir 30 secondes sur ce que disait Elisabeth. Je suis complètement d'accord. Il y a énormément de pertes. Hein. Surtout, bon, dans le cas d'une littérature comme le hindi, où il y a souvent des jeux de mots, enfin des jeux de clavier culturel entre ourdou avec arabe et persan, et puis hindi sanskrit, ça c'est sûr qu'il va y avoir de la perte, et de la perte grave. Ceci dit, moi j'ai découvert la littérature japonaise sans avoir de contexte. Je connaissais rien au Japon. J'ai découvert le Japon par sa littérature, parce que ça me plaît, la littérature, ça m'a toujours plu. Pareil pour la Russie. J'étais extrêmement ironique du 19e siècle, en plus. On lisait Dostoïevski. Bon, qu'est-ce qu'on savait d'autre? En plus, une pagaille de personnages, là, qui changent tout le temps. Bon, parce que ça, c'est le reproche que vous font les éditeurs, des fois, pour des romans indiens. Hein. Et bon, c'était un grand roman. Et c'était pas seulement parce qu'à l'école, on nous disait Dostoïevski, c'est un grand monsieur. On l'a lu et relu. Moi, je dirais ça, c'est quelqu'un que j'ai relu 7-8 fois avant de le traduire, que j'ai encore envie de relire, où j'ai eu cette intuition qui, c'est vrai, est subjective et vachement difficile à argumenter, que voilà un génie. Mmh. Et ça, je l'ai eu vraiment souvent. Mais pas 100 fois. Hein, pas 100 fois.
Il me semble quand même, pour ajouter à ce que tu dis, qui est tout à fait juste, que tout dépend de l'imaginaire qu'on a quand on est face à un livre. Peut-être qu'on va effectivement ignorer une partie du contexte, etc., mais que l'imaginaire va se déployer dans un texte. Et ça ce sont des textes dans lesquels ça arrive, vraiment. Moi, j'ai notamment un livre d'un désespéré du marxisme, on va dire, qui s'appelle Vijayan au Kerala, que j'ai traduit, qui s'appelle Les légendes de Kassak. Je l'ai donné à quelques personnes, il y en a qui l'est tombé des mains parce qu'ils étaient trop loin, comme tu dis, du contexte et tout ça. Il faut admettre que ça arrive. Et il y en a qui ne connaissaient rien, ni à l'un, ni au contexte, et qui étaient baba, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette poésie, mais qu'est-ce que c'est que ce lyrisme, et c'est l'auteur, hein, ça, je veux dire, tout est à son honneur. Donc si tu veux, c'est voilà, peut-être qu'effectivement le regard est pas exactement centré de la même façon que l'auteur l'a voulu, mais c'était vraiment une expérience qui leur a donné envie de découvrir plus d'auteurs kéralais, etc. Donc on sait jamais où ça va, et puis bon, c'est un petit peu le point de vue du traducteur, c'est lâcher une bouteille à la mer, quoi.
Oui, mais finalement, le traducteur n'est pas obligé de... Enfin, le traducteur est souvent pris en compte quand c'est un traducteur littéraire. Mais la traduction en elle-même, je veux dire, on peut avoir des affinités avec une traduction pas nécessairement littéraire. En fait, moi, j'ai fait énormément de traductions et d'interprétariat direct. Et donc, j'ai une grosse expérience de ce type de choses, et donc de relais culturels entre des Tamouls vivant en France et des Français. Et c'est passionnant. Comme tâche, c'est différent de la traduction littéraire. Donc il est possible que ce soit aussi ça qui me pousse à rechercher du documentaire plus que, mais pas du documentaire de n'importe quelle qualité, du documentaire généralement écrit par des écrivains.
Oui, je comprends.
Et donc je pense que même de leur côté, il y a une espèce de prise de conscience de la nécessité de parler de chez eux de façon plus détaillée que dans leur œuvre littéraire à proprement parler. Donc voilà, les projets futurs, c'est
est-ce
plutôt...
Est-ce que quelqu'un comme Imayan, ça te tenterait pas?
Oui,
parce
ça
que
oui, mais...
Moi, je trouve que c'est pas du documentaire, et que, bon, j'y connais rien au contexte tamoul. Je l'ai lu que en anglais, mais je me suis dit, mince, voilà quelqu'un.
Et le dernier, celui qui n'est pas traduit, et pour cause, je sais pas s'il le sera un jour, est particulièrement intéressant. En plus, Imayan, c'est un écrivain... on peut dire Dalit, sans que ce soit vraiment un écrivain qui se réclame de la littérature Dalit. Mais effectivement, il a été traduit déjà pour deux ou trois de ses romans. Le dernier est très intéressant, mais là, c'est... On verra, peut-être. Mais c'est effectivement un auteur intéressant qui, entre autres, a écrit un roman sur Pondichéry, et qui pourrait aussi, en français, être... apprécié, puisqu'il y a des liens particuliers entre Pondichéry et la France, aussi bien par les pondichériens que par les amateurs, les Français qui ne manquent pas d'aller faire un petit tour à Pondichéry. Ceci dit, le milieu est quand même très particulier. Et bon,
C'est à voir. Enfin.
France, un de vos plaisirs de traduction les plus intenses.
Récemment, on parle beaucoup de Tagore actuellement parce que c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Et en 2013, ce sera les 100 ans de son prix Nobel. Et donc, on me demande de prendre la parole ici ou là, dans les universités ou ailleurs, pour parler de Tagore. Et il y avait un roman de Tagore que je n'avais jamais lu et qui, étonnamment, n'avait jamais été traduit en anglais jusqu'à l'année 2003. Alors que ce roman de Tagore a été écrit en 1929. Et je me suis dit, ça c'est vraiment bizarre que l'on n'ait pas traduit, parce que les Indiens, les Bengalis traduisent énormément leur littérature en anglais. Comment se fait-il qu'on n'ait pas traduit ce roman ? Et je me suis mis à le lire, et d'abord je notais des petites choses, et puis finalement, petit à petit, je me suis mis à le traduire, et à traduire, et à traduire, et finalement je suis arrivée à la fin de la dernière page et la dernière ligne en ayant traduit tout ce roman. Et ça m'a fait un plaisir extraordinaire.
Qui s'appelle comment?
Il s'appelle encore rien parce que j'ai fini sa traduction. Je l'ai proposé par mail, à courriel, à Gallimard, parce que j'ai publié déjà 3 traductions chez Gallimard, qui ne m'a pas répondu. Donc j'ai renvoyé un second mail à Gallimard, qui ne m'a pas répondu.
Jacques Dard n'est plus là.
Et là, j'ai un autre éditeur qui m'a répondu. Et pour le moment, je ne vous dis rien. Mais c'est un roman qui s'appelle en bengali Joga Jog. En hindi, ça serait Yoga Yog. Ça veut dire... relation, ça veut dire échange, ça veut dire connexion, etc. Et c'est un roman qui m'a fascinée. Il y a un personnage de femme dans ce roman que je trouve d'une force et d'une beauté extraordinaire. Et donc, ça m'a enthousiasmée. Vous voyez, à mon âge, tout d'un coup, me voilà enthousiasmée.
Mais heureusement qu'il n'y a pas d'âge pour l'enthousiasme, France, quand même. Annie, un plaisir particulièrement.
Ah ben tout simple, puisque comme je disais tout à l'heure, on choisit, c'est le bon côté de la très mauvaise médaille, du mauvais marché. Et peut-être c'est Krishna Baldavid que j'ai eu le plus de plaisir à traduire. Et je précise quand même que pour moi, plaisir et douleur, ça va vraiment ensemble, parce que c'est pas... Le moment où on se dit... Ça y est, c'est comme toucher la note en musique, c'est souvent pas immédiat, en tout cas pour moi. Et la période de patinage, là où on fait divers abords de la fameuse note, elle est souvent difficile. Hein. Sinon, Nirmal Verma aussi, tout le monde dit « Oh, mais Nirmal Verma, il écrit un hindi décoloré et tout, c'est comme de l'anglais, c'est très facile. » Pas du tout. J'ai trouvé que c'était tout aussi difficile. Dans un genre très différent, un ouvrage sur les cultures matérielles, qui est malgré tout littéraire par son style, un ouvrage de quelqu'un qui s'occupe de techniques de collecte de l'eau en milieu désertique, que j'ai fait pour l'Harmattan, gratos bien entendu, parce que c'est tellement le style était tellement extraordinaire, Anupam Mishra, qui a longtemps dirigé la Gandhi Peace Foundation. Et en fait, moi je crois que je suis conditionnée par le style d'une personne. Et donc j'espère qu'on ne voit jamais que c'est la traduction du même traducteur, parce que chaque fois qu'on entre dans un style, un grand plaisir se fait, mais il faut qu'il y en ait un. Franchement, je ne pourrais pas traduire du Zola. Et pareil, il y a des écrivains, beaucoup, en hindi, que je ne pourrais pas traduire. Je le ferai s'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais ça sera sans autre plaisir que de bien faire un boulot. Alors que traduire, ce n'est pas du tout le plaisir de bien faire un boulot. Il y a ça aussi, mais il y a vraiment un rapport à la langue que j'imagine un chanteur pourrait avoir. Enfin, c'est peut-être très, très prétentieux. Hein, surtout le traducteur, il ne se voit pas. Mais je crois que quand il s'attaque à des styles, il est dans cette affaire-là de raser Le phrasé aussi, c'est très important pour presque tout, en tout cas tous les auteurs dont je me suis occupée. Le phrasé, le mot déplacé, mais comme il l'était... Enfin bon, non, on ne va pas rentrer dans la technique.
Oui,
enfin,
oui.
Bref, c'est ça qui m'excite, et généralement. Bon. Et donc, quand je traduis des social science, hein, ce qui m'arrive un petit peu, eh bien, il n'y a pas de plaisir autre que bien faire de façon la plus claire possible, la plus élégante, et basta. Et ça n'est pas le grand plaisir du traducteur.
Oui, mais c'est bon. Plaisir, douleur, ça va ensemble. Je crois que Dukkha, Sukha, on peut pas séparer comme ça. Est-ce qu'il nous reste du temps? Parce que je n'ai pas de montre. 6h moins 10. Ce serait tout à fait le moment de lire un extrait, si ça vous chante. Sinon, on passe aux questions.
Lire quelque chose?
Oui.
Je vais lire le premier, bon, dans les deux extrêmes. Mais vous m'arrêtez quand il faut s'arrêter. Parce que je ne saurais pas, moi.
Vous arrêtez à un moment où c'est logique. Dites-nous de quoi il s'agit.
Merci, je vais le tenir. À la limite nord du village de Nishchindipur se trouvait la petite maison de briques qu'habitait Horihor Rai, chef de famille de condition modeste, qui vivait chichement du revenu d'un carré de terre hérité de ses ancêtres et des dons annuels de quelques disciples. C'était le lendemain du 11e jour de la lunaison, jour de jeûne. Indir Thakrun, cousine éloignée de Harihar, assise sur la véranda, prenait son premier repas de riz pilé. Une enfant de 6 ans, fille d'Harihar, suivait d'un air mélancolique le mouvement de chaque poignée de riz du bol aux lèvres. De temps en temps, elle jetait un regard désespéré vers le récipient de cuivre jaune qui se vidait peu à peu. Une ou deux fois, il sembla qu'elle allait parler et n'y parvenait pas. Indir Thakrun, poignée par poignée, eut bientôt vidé le bol. Jetant les yeux vers la petite fille, elle dit alors « Oh mon Dieu, mais je t'en ai pas gardé, ça alors !»
Cet extrait de La complainte du sentier qui a été filmé par Ray. Sous le titre, qui est le vrai titre bengali, Pother Panchali. C'est la première page.
La première partie. Tu veux lire quelque chose?
Moi, j'ai quelque chose, mais c'est très long, alors j'hésite un petit peu.
Annie, tu as quelque chose de très long? On va écouter le tamoul. Comme tu veux. Tu me dis.
C'est pour rendre hommage, en fait, au talent de traducteur de mon mentor, on peut dire, de François Gros, qui a publié ce recueil de nouvelles intitulé d'Inde du Sud à tort, puisque c'est nouvelle tamoule.
D'accord.
Tamoule d'Inde du Sud, en fait.
Et c'est publié chez qui?
Publié par l'édition de l'Aube et republié en deux volumes plus tardivement, en fait. Cette anthologie est représentative à peu près de la littérature d'Inde nouvelle, enfin, représentative, partiellement. Il a été coupé en deux et republié. Sans que ce soit tellement justifié d'avoir fait ça, mais on vend mieux de petits bouquins qu'un gros. Je vous lis le chapeau et puis finalement je vais vous lire quelques peut-être la fin. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Il s'agit d'une nouvelle de Piramil Dharmu Sivaramu qui s'intitule Raja de Lankapuri. Un texte très intuitif sur le problème des Tamouls au Sri Lanka. Le conflit est perçu comme une réaction de la nature contre laquelle une injustice a été perpétrée. Le symbole de l'éléphant qui se rebelle et meurt est une image d'intégrité et de mémoire, par-delà le bien et le mal. À travers la lecture bouddhique du mythe symbolique d'un éléphant fabuleux, dans un décor classique où, selon la tradition hindoue, la forêt s'oppose à la ville, comme la nature à la société, tout est dit, sans prendre parti. Dans un ultime hommage sincère au Dharma, un adieu au code d'un ordre en train de disparaître pour une durée infinie. C'est à une heure incongrue de la nuit, au-delà de minuit, que Gopalakrishnan fut tiré du sommeil. L'heure se lisait 00:49. Dans la lumière de la chambre à coucher, les tisons ardents de la pendule murale électronique proclamaient que l'année 1984 était achevée et que 1985 était née.
Les deux points superposés qui séparaient 00 et 49 clignotaient comme deux gouttes de sang. Padmini et Abhiraman. Avant que le petit Abhiraman eût complété ses 5 ans, Padmini avait disparu à la suite d'une fausse couche pendant sa seconde grossesse. Depuis, 13 ans avaient passé. Abhiraman aussi est disparu, mais pas dans la mort. Pourtant, à la façon dont il a disparu, c'est seulement le souvenir fixé à ce moment-là qui s'estompe derrière ses larmes, comme lorsqu'il avait pleuré Padmini. Aujourd'hui, Gopalakrishnan, topographe en retraite, pensionné du gouvernement, s'étourdit en se plongeant dans les relevés d'arpentage privés qui s'accumulent devant lui. La façon dont Abhiram, à moins de 17 ans, vient de disparaître, sans que personne ne le remarque, Gopalakrishnan et Padmini en avaient reçu une fois au cours de son enfance le signe prémonitoire. Cela s'était passé dans la jungle singhalaise à Lankapuri. Il en gardait un souvenir aussi frappant que si c'était arrivé hier. En ces jours-là, Abhi, qui jouait avec les enfants singhalais du village, devant la tente des topographes, proclamait qu'il était le Raja. Selon la croyance héréditaire des villageois, le Raja de Lankapuri n'était autre qu'un éléphant extraordinaire qui vivait dans cette région de forêt. C'était un village de plantation de canne à sucre. Aucun des éléphants attirés par la canne ne résistait aux tactiques dissuasives des villageois. Mais le Raja de Lankapuri, c'était une autre affaire. Lui ne s'était jamais ému. Il apparaissait et demeurait debout, au-delà des champs de canne, comme une montagne surgit brusquement, immobile à l'horizon. Il ne mangeait jamais plus de la charge d'un camion de canne, et on ne le voyait que rarement dans les plantations.
Bon, je ne peux pas lire tout, malheureusement. De Pramil Dharmushivaramu, qui n'est pas extrêmement, qui est connu dans le milieu, du petit milieu littéraire, qui est exactement comme... Comme France le décrivait tout à l'heure, dans les années 70, en pays tamoul, il y avait un nombre de petites revues littéraires extraordinaires et les écrivains se lisaient, en fait. Le public était les autres, oui. Ceux de la revue et les autres. Et cette situation a duré jusqu'à la fin ou au début des années 80. Aujourd'hui, le relais est pris par un certain nombre de revues littéraires beaucoup plus... facile, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facilement disponible et plus populaire, mais d'une qualité qui reste correcte. Parce que ça, j'ai un petit peu oublié de le dire, mais la situation, disons, la discrimination du public tamoul par rapport à la littérature contemporaine est relativement faible, on va dire, si on compare au Kerala. Où il y a eu depuis longtemps des revues littéraires accessible au grand public. En pays tamoul, c'est resté beaucoup plus confidentiel pendant très très longtemps et on en est maintenant au stade peut-être où était le Kerala déjà il y a 30 ans. Et donc tous les espoirs sont permis.
Est-ce qu'on publie aussi dans les quotidiens les romans en feuilleton ?
Oui, bien sûr, mais là il s'agit plutôt de littérature grand public, de nouvelles qui sont bien formatées dans les...
Ah d'accord. Parce que les romanciers importants n'ont pas été publiés en...
Choisissent un petit peu dans quoi se faire publier. Mais, mais les gens... Par exemple, ce qui est assez caractéristique, quand des amis tamouls viennent chez moi, des gens qui ne sont pas spécialement des écrivains. Bon, les écrivains, c'est différent, mais des gens normaux, on va dire. Et voient des romans et des nouvelles chez moi, et qui savent que je suis enseignant prof de tamoul, ils me disent, mais vous lisez des histoires ? C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme de la littérature. C'est des histoires. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas en Bengali ou en Malayalam. Les gens ont quand même plus conscience qu'il existe une littérature. Oui, les histoires, c'est de la littérature. Bon, c'est un autre problème aussi pour...
C'est ça.
Mais
la poésie a un statut plus élevé.
En tamoul aussi, et voir les chansons de films. Ouais. Pour le commun des mortels. Bon.
Annie, Andy, tu nous lis quelque chose ?
Des petits extraits.
Parce que... Quelle heure est-il ? Moins 2 de 6 heures ? Mais c'est pas tard, tu peux lire.
Ok. Je prends au beau milieu d'un roman sur la partition qui est vu du point de vue d'un jeune adolescent qui dort là. La nuit se traîne, sombre, lumineuse, bleue et tiède, m'entoure de sa somnolence. Quelque part au loin, deux chiens se lancent de loin en loin des questions sporadiques à vous fondre le cœur. Moi, allongée sur mes draps froissés, tentant de calmer ma fébrilité, je supplie les cieux tout-puissants de m'accorder le sommeil, ou l'inconscience, ou la mort. De ces myriades dieux, le ciel pleut son indifférence, lumineuse, bleue et froide. La nuit se change, tantôt en ours noir, tantôt en éléphant blanc. Moi, je me change, tantôt en faucon bleu, tantôt en oiseau rouge. Sur la terrasse étroite qui m'entoure, il y a trois cadavres abandonnés sur les charpailles, sur les lits de sangle défoncés, sales, blêmes et tièdes. Papa, maman et Davy. C'est pas des cadavres, c'est dans ses fantasmes ou dans ses comparaisons, parce que la partition est une menace, elle n'est pas encore arrivée. Je sais que maman est en train de bougonner, Davy en train de pleurer, que papa est livide. Je suppose que maman envoie ses malédictions à Benji, que Davy pense à Naresh. Maman est opposée au mariage de Benji et de Naresh, et toute sans sortir de cette espèce de rêve éveillé, le narrateur passe dans la tête de sa mère et sans ponctuation particulière. Elle joue la grande croyante bien pieuse, tout miel, tout fiel, assassine, à glousser comme une dévergondée à toute heure du jour. Un jour ou l'autre, je lui arracherai les dents, ou je ne m'appelle pas Janaki. Elle passe toute la journée à glander avec ce bon à rien, à danser autour de lui à moitié nu, en simple jupon. Toute la journée à se pavaner, à chanter, à bavasser, espèce de miracie, chanteuse de rue. Et même pas honte, pas un début de commencement. Je vous le demande un peu, c'est des comportements de mère ou de pute. Et ce glandeur, pourquoi il fait rien, grand comme un chameau, et il passe son temps dans ses bras, fils spirituel, mon cul, je me demande où allait le péché, dans quel tripot, je suis pas aveugle. Il a pas fait d'études, rien. On ne sait pas de quel castillé, de quelle communauté, on ne sait pas d'où il sort. Qui marie sa fille au-delà de la ravie, jamais ne la revoit. Je vous le demande un peu, où sont ses vrais parents? Et c'est qui, elle, pour lui? Quelqu'un qui n'a pas ses vrais parents. C'est pas avec une autre qui se fera une mère. Mère, mon cul, ses façons, ça ressemble à une mère ou à une sorcière. Rien à faire, de... etc., etc. Ça, c'est la mère pensant au mariage qui va se dérouler. Et tout de suite après, petit réveil, des myriades de dieux fichés dans le ciel, il s'est mis tout à coup à dégringoler des trompes de questions et de suggestions, brillantes, aiguës, brûlantes. Je ferme les yeux et j'ai l'impression de m'envoler, tandis que le ciel descend sur moi. Je rouvre les yeux et le ciel reprend sa position et s'étale, sombre, bleu, indifférent. Les myriades de dieux scintillent, bougent, se transforment en autant de dents, etc., etc. Ça continue un peu. J'ai les yeux à moitié ouverts. J'ai aucune idée du lieu où je suis, au ciel ou sur la terre, à Lahore ou ailleurs. Quelques minutes plus tôt, j'étais dans un rêve limpide et silencieux. Il pleuvait. Les étoiles scintillaient doucement. Je volais. À présent, m'arrivent aux oreilles des éclats de voix et de bruit confondus par vagues. Les trois charpailles, les trois lits sont vides autour de moi. J'ouvre complètement les yeux. Debout, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourvu que ce ne soient pas les émeutes entre hindous et musulmans qui ont commencé. Juste la petite. En fait, c'est ça, c'est la fameuse sœur dont la mère ne voulait pas qu'elle se marie au glandeur, le fils spirituel de la fameuse dévergondée. C'est cette sœur qui est allée se jeter dans le puits la nuit même et le petit réveil au matin. C'est ça. Après, il y a le sauvetage au bord du puits. Alors, je vous dis juste un petit peu de ce dialogue. Vous verrez, le plaisir aussi, c'est de passer du lyrisme stylistique, de phrases des fois compliquées, certaines sur plusieurs pages, à des répliques du tac au tac. Très enlevée, très grossière, parce qu'on est au Punjab. C'est un lutteur, fonction dans le village très importante, qui a entrepris de sortir la noyée, dont on ne sait d'ailleurs pas si elle est vive ou morte, du puits. Et toute la communauté est là, au lever du jour, à essayer de l'assister. « Lutteur, ce n'est pas le moment de faire le têtu, » dit le roi du cure-dent. « Qui c'est qui fait le têtu ici? Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas avec vos beaux discours qu'elle va s'en tirer. » Qui va pouvoir expliquer à cet obstiné qui ne pourra pas l'attirer tout seul? Supplie Dari. Je suis pas tout seul. J'ai mon Dieu avec moi, Mahadev. Écoutez-moi ça. Il y a quelqu'un qui se noie en bas et lui, là, il se prend pour le grand Manitou du puits. Fais attention ou ça va mal finir. Où c'est qu'on a été chercher cet abruti? Demande Mélécha. Chadji, faites un peu attention à ce que vous dites. Lutteur, fais ce que tu as à faire sans te retourner, ordonne le roi du cure-dent. Faudrait qu'on me laisse un peu faire à la fin. Tais-toi et débrouille-toi pour lui faire passer le seau d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je suis en train de faire, mais il faudra encore que cette putain d'enfoirée s'assoie dedans. Lutteur, surveille un peu ton langage. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce qui est allé chercher ce malotru? Personne n'est allé chercher. C'est le seigneur Bhagwan qui nous l'a envoyé. Bon, ça continue. Et finalement, on n'y arrive pas. Il est question d'envoyer quelqu'un dans le puits. C'est un puits hindou dont l'eau est bue par les hindous. Le seul quelqu'un qui sait nager, c'est un musulman. Et en plus, c'est un boucher. Et voilà.
Redis-nous le titre.
Ça s'appellera, parce qu'il n'est pas encore tout à fait publié, Requiem pour un autre temps. Après beaucoup... Oui, c'est ça. Le titre tout nu en hindi, c'est « Temps passé ». Entre temps perdu et temps passé. « Guzra wa zamana ». Et bon, l'auteur a souhaité se distinguer de Proust, qui est pourtant une de ses grandes inspirations. Admiration, mais modestie oblige. Il a préféré un titre qui n'ait rien à voir avec le temps perdu.
Et l'auteur, c'est ?
C'est Krishna Baldev Vaid, V-A-I-D. Oui.
Bon, eh ben c'était une bonne façon de terminer notre petite discussion. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser aux intervenants ?
Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Donc, ma question, c'est Jean-Pierre Ritik Banerjee. Donc, je représente une jeunesse de Calcutta fraîche.
Moi, je pense qu'il n'est pas...
Allô. Oui. Donc, je m'appelle Ritik Banerjee, je suis étudiant à l'INALCO en traduction spécialisée et je viens de Calcutta. Je peux vous dire une chose, que à Calcutta, à l'Alliance française, on admire Madame Bhattacharya et elle est devenue elle-même un mythe. Donc, tous les professeurs de français bengali de Calcutta ont toujours parlé de Madame France Bhattacharya, des professeurs de français de Pushkar Dasgupta ou de Loknath Bhattacharya. Mais je voulais préciser quand même quelque chose que depuis que j'ai choisi le français et le côté bengali tout en étant élevé dans le quartier des intellectuels à College Street, c'est à travers le français que j'ai vraiment voulu comprendre comment fonctionnait ma propre société. En arrivant en France en tant qu'assistant d'anglais, avec un bagage de français dans le milieu des alliances françaises de Calcutta et de Delhi, parce que j'étais traducteur en chef pour l'ambassade de France, donc je travaillais avec les journalistes français. Tout en arrivant, moi j'ai découvert que, aujourd'hui ça va faire 5 ans en France pour moi, que pendant 40 ans on a un peu bombardé l'image de l'Inde et celle de Calcutta. Et vous serez toujours des grandes déesses indophiles, mais je pense que c'est le temps de quand même renouveler un petit peu l'image de l'Inde et celle de Calcutta. Parce que Madame Bhattacharya, vous faites partie d'une génération des Français qui ont vécu ou qui ont vu sûrement la partition du Bangladesh, l'arrivée des millions de Bangladeshis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Calcutta, on a tout de suite l'image de la capitale des lépreux, Mère Teresa. Mais pourquoi ce déclin de la littérature bengali aujourd'hui? Pourquoi les gens ils ne parlent plus le bengali? Je peux vous dire que je ne suis pas du tout raciste, mais en Inde, l'identité bengali dépasse celle de l'identité indienne. Donc, les Bengalis sont toujours d'abord les Bengalis et après ils sont indiens. Donc, l'échec de Tagore à l'échelle nationale, de Rabindranath Tagore, ça a été aussi, je pense que les Bengalis n'ont jamais voulu traduire Tagore en hindi parce que c'était vraiment. La langue hindi n'était pas acceptée dans le milieu intellectuel du Bengale. Parce que je me souviens très bien, mais moi j'ai 29 ans, mais quand j'étais petit, quand je chantais chansons de Bollywood, ma tante étant prof de Bengali, elle m'interdisait de chanter parce que c'était vraiment des chansons des panwala, des rikshawala. Donc déjà, cette. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, cette fierté bengali.
Est-ce que vous avez une question à poser ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ma question, c'est que... vous êtes toutes là, mais quand on parle du problème, on ne parle que des problèmes en Inde concernant les langues, la traduction. Mais est-ce que vous pensez que ce sera résolu un jour ou ça va rester comme ça ? Ce problème de traduction, ce problème de... des langues, de la traduction et de... Est-ce que vous pensez que ça va rester ?
C'est à moi que...
Oui, oui, Madame Bhattacharya. Vous qui êtes très bengali, donc.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, d'une certaine façon, un problème du français ? Maintenant, je me demande si nous ne sommes pas dans un état ou dans un moment où vraiment l'anglais est en train de dominer toute toute la parole, tout ce qui se passe et qui est exprimé est en anglais. Moi, je suis chercheur, en dehors du fait que je suis à la retraite de l'enseignement, je suis toujours chercheur. Et quand je veux publier quelque chose que quelqu'un va lire sur le Bengale, la littérature, l'histoire sociale, il faut publier en anglais. Alors, je pense que le problème, si vous voulez, des langues indiennes est un problème qui... malheureusement pour nous, se rapproche du problème du français actuel. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression économique et je dirais, un tel poids des médias anglophones que nous sommes maintenant dans une situation où il y a une sorte d'hégémonie. Alors pour l'Inde, c'est encore pire, je crois, que pour la France, mais ça n'est pas sans comparaison, je dirais.
Bonsoir, merci beaucoup pour ce voyage tout à fait coloré et approfondi de quelques langues. Je voulais vous demander, poser une question par rapport à vos sentiments quand vous êtes face à un texte. Parce que j'ai remarqué souvent, et il m'est arrivé de traduire des livres d'écrivains indiens, mais évidemment de l'anglais. Et dans ces textes-là, on voyait apparaître ou subsister, évidemment, certains termes d'origine. Et la question que je vous pose, cela peut-être a dû vous arriver, quelle est la charge si puissante dans le terme d'origine pour que l'écrivain de langue anglaise l'ait inclus dans sa phrase? Et je pense à un exemple précis, peut-être cela parlera à Nimonto en tant que terme, je ne connais pas de langue indienne. Dans un roman, enfin non publié encore, enfin Danjana en Pachana, il y a une scène assez délicate et le mot pour désigner une prostituée, enfin war en anglais, et c'est le mot randi qui intervient. C'est, voilà. Et donc là, et ces deux mots voisinent. Randi. Et ces mots. Et donc la question que je me posais, c'était est-ce que quelle est la valeur organique intrinsèque pour l'artiste telle que il a évidemment inclus et conservé ce terme-là, qui n'était pas par décoration, je suppose, mais parce qu'il avait une valeur, une pugnacité, une efficacité, il captait quelque chose que le mot anglais ne pouvait pas.
Je sais pas français que vous répondez, parce que c'est à peu près le même terme apparemment en bengali, mais ce qui est sûr, c'est que ce mot-là, il veut dire, on a le même problème en français, on va dire pute, prostituée, le même mot, il va être utilisé selon les contextes pour la courtisane qui connaît tous les instruments de musique, qui danse, qui entretient la notabilité pour les putes de bas étage et à titre d'insulte par les gamins. Donc c'est un peu au coup par... Mais garder ce terme, évidemment, ça permet de conserver la polysémie. Alors, je ne sais pas, moi... Oui. Évidemment, quand vous traduisez de l'anglais, vous avez le choix déjà fait pour vous. Il faut juste comprendre. J'imagine que les mots qui restent, les isolats, là, vous les gardez tels que dans la traduction. Peut-être pas, après tout. Hein. Nous, il faut le faire, ce choix. Et c'est vrai que c'est pas...
Il y a des mots, par exemple, le mot « ghat ». Ghat, c'est un débarcadère, embarcadère, ce sont les marches et tout ça. Nous n'avons rien de tel en français qui rende la signification totale.
Il est passé aussi.
Il est passé, je ne sais pas, combien de personnes ici connaissent le mot God? Je ne sais pas. Enfin, il y a vraiment, c'est vrai, c'est un problème très grand. Mais si c'est l'écrivain du livre dont vous parlez est bengali, je ne sais pas qui il est, le mot qui veut dire range en bengali, c'est à la fois la prostituée et aussi la veuve. Parce qu'il y a un passage de l'un à l'autre. Comme les veuves étaient supposées ne jamais se remarier et rester dans la chasteté toute leur vie, eh bien, on les assimilait dans la langue qui n'est pas chaste, je dirais.
Alors, la question utile, si vous voulez, est-ce que ce mot d'origine est beaucoup plus fort pour
Non, je t'assure, moi je pense pas, non. Ah, tu penses, toi? Non.
Ben, moi, je trouve que Rohr, c'est terrible.
Oui, non, je pense pas, je crois que... Non, non. Mais il y a une facilité des écrivains indiens écrivant en anglais pour parsemer leurs textes de mots d'origine des langues indiennes.
Oui. Il y a des traductions anglaises de romans hindi, par exemple, qui ont été faites. Ouais. On se demande pourquoi elles ont été faites. Ouais. Il y a 53, en 30 pages, il y a 53 mots de hindi. Je sais pas, il faut être indiphone pour le comprendre.
Ou panjabi, hein, parce que
c'est très dommage. Ouais, c'est très dommage.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Ouais. C'est un manque de...
Je pense que
c'est un manque d'imagination.
Sauf si vous avez un mot particulier à dire, je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Mmh. Mais quelqu'un a quelque chose à dire de particulier, de bref, ça va? Pas de questions? Tu voulais dire quelque
non,
chose?
Simplement, ça met l'idée de l'anglais qui. Le hindi qui vient ou bengali qui vient en anglais, c'est exactement pareil que l'anglais qui vient sur un discours en bengali ou en hindi.
Absolument.
C'est aussi cette habitude constante chez tous les Indiens, en fait, à fonctionner sur plusieurs niveaux de langue à la fois, dire les choses taboues. Moi, ça m'étonnait justement. Je pense que quand on parle de choses un petit peu, par exemple, de sexe en tamoul, on passe facilement à l'anglais. De choses un petit peu taboues, on dit en anglais. Par contre, tout le domaine affectif, évidemment, sera forcément tamoul. Donc ceux qui écrivent en anglais ont bien un petit peu aussi cette façon de jongler entre les langues.
Oui, c'est assez curieux que ce mot-là se retrouve le...
Oui, ça c'est un cas par... Oui. C'est peut-être pour son double sens.
Je vous remercie infiniment pour tous vos points de vue. Comment ?
Oui,
encore une question ?
Parce que je ne voudrais pas qu'on prenne du retard pour la prochaine table ronde. Il se trouve qu'on a publié un livre sur Ritwik Ghatak, le cinéaste bengali, dont France a traduit non pas un texte de Ghatak mais un texte d'Advaita Malabarman, enfin un chapitre d'un très beau livre de Malabarman dont Ghatak a adapté un film, hein, qui est La rivière Titache. Moi j'ai juste une question. Parmi les textes de Ghatak, il y avait des textes qui avaient été écrits directement en anglais, enfin ce sont des textes assez journalistiques à vrai dire, enfin, et des textes écrits en bengali. On s'est rendu compte assez vite, non d'ailleurs pas vite du tout, mais que les textes qu'il avait écrits en anglais étaient d'un drôle d'anglais. Qu'est-ce que c'est que cet anglais que, comment est-ce que vous qualifieriez l'anglais qu'écrivent les Indiens, sur le plan linguistique je veux dire? Enfin, c'est une question compliquée, parce que selon qu'elle s'adresse à des hindis ou à des bengalis ou à des tamouls, c'est pas la même question. Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, ce n'est pas de l'anglais tel qu'on a l'habitude d'en lire. Vous avez vite dit, parce que selon qu'on lise de l'américain ou de l'anglais, etc. Mais est-ce... Oui, mais justement, la question que je posais, comme on s'est beaucoup cassé la tête sur la traduction, etc., c'est quel est le, comment dire, quelles sont les altérations, quels sont les éléments qui viennent des langues indiennes dans cet anglais-là.
Qu'est-ce que tu as comme couli, par exemple? Couli est un mot tamoul, je crois, Elisabeth. Couli est un... Voilà.
Et catamaran aussi, le verre, le structure de la langue.
Oui, je crois pas des mots. Des mots, oui. Non, dans la structure de la langue,
je suis désolée,
non.
Désolée, mais peut-être vous pourrez continuer la discussion à l'extérieur, parce que là, ce serait bien de se laisser 5-10 minutes avant la prochaine table ronde. Merci à vous trois.